Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 30 mars 2021. Aujourd'hui, il y a deux choses qu'il faut retenir principalement. De côté, les bonnes nouvelles, puisqu'on a le Dow Jones qui est au plus haut de tous les temps, le DAX qui a touché les plus hauts historiques, et Joe Biden qui raconte partout qu'il va lancer son stimulus de 3 000 milliards d'ici cet été, et qui en plus annonce aussi que 90% des Américains seront vaccinés, ou en tout cas auront accès au vaccin d'ici mi-avril. Alors c'est intéressant de savoir que 90% y auront accès. Alors, on ne sait pas qui sont les 10% qui seront interdits, mais enfin ça c'est secondaire. Ce qu'on voit de ce côté-là, c'est réouverture de l'économie, soutien de l'économie, injection monétaire, redémarrage de l'économie. Enfin c'est quasiment l'euphorie sur les marchés par rapport à ça, et Joe Biden est officiellement un génie. Donc c'est fantastique ce qui est en train de se passer, tout le monde est super bullish. On a quand même entendu 2-3 choses dans le FT ce matin. On disait qu'il y avait quand même pas mal de boîtes américaines qui commençaient à dire qu'ils voyaient une augmentation des coûts, une augmentation des coûts de production, donc quand même à terme un risque inflationniste. Maintenant on s'en fout du risque inflationniste, pourquoi? Parce que depuis 3 jours on ne parle que de Archegos, et donc ce fonds qui a sauté aux États-Unis la semaine dernière et qui a eu des conséquences assez impressionnantes sur les marchés, sur les quelques titres qu'on avait déjà cités hier. Mais là, aujourd'hui, ce qui devient intéressant, c'est que finalement, on y voit un peu plus clair et on sait que finalement, c'était des CFDs. Donc, les gars étaient exposés sur des produits dérivés qu'on appelle des Contract for Difference, qui sont simplement des réplications d'un titre. Donc, à la place d'acheter le titre réel, vous achetez le titre en produit structuré. L'avantage que vous avez là-dedans, c'est que vous n'êtes pas actionnaire en théorie, vous n'avez pas droit aux dividendes. C'est pas un avantage, vous me direz, mais l'avantage, c'est que le produit vous permet surtout d'acheter en marge, c'est-à-dire qu'à la place d'acheter une action, eh bien vous pouvez en acheter jusqu'à 5 pour le même prix. Donc en gros, vous avez 100 francs à investir dans une action. Dans un CFD, vous mettez 100 francs, on va vous demander que 20% pour financer votre CFD, ce qui veut dire que vous pouvez en acheter 5 fois plus. Par contre, effectivement, si ça baisse, on va vous demander un appel de marge. C'est assez classique, c'est quelque chose qui est fortement utilisé sur beaucoup de plateformes de trading. C'est un très grand classique et c'est rien de nouveau. Par contre, comme toute histoire dans les produits dérivés, ce qui est toujours exceptionnel et toujours très important à retenir, c'est que quand on parle de produits dérivés, on parle aussi de taille. Et quand vous avez des tailles qui sont gigantesques, eh bien forcément, l'impact est beaucoup plus important quand ça commence à partir en sucette. Et c'est ce qui s'est passé ces derniers jours avec la problématique sur Viacom, sur Discovery, sur Baidu, sur Iki et sur Tencent Music, parce que tout d'un coup, les tailles étaient beaucoup trop grosses. Et quand on a demandé au fond Archegos de se démonter, de couper ses positions, de liquider ses positions, les tailles étaient monstrueuses. On parle de 30 milliards au total. Et faut pas oublier que de l'autre côté, quand vous créez ces produits structurés, quand vous créez ces CFDs, eh bien, à l'opposé, vous avez une banque qui a le titre réellement en position pour vous émettre finalement cette espèce d'ersatz d'action. Et donc, quand tout part à la casse parce que le CFD se fait démonter, bah, autant vous dire qu'il y a un double effet qui se coule derrière, et vous avez effectivement l'action elle-même qu'on prend plein la figure. Et quand vous êtes la banque derrière avec une position derrière comme ça, eh ben ça coûte de l'argent. C'est ce qu'on a vu hier sur le Crédit Suisse, c'est ce qu'on a vu hier sur Nomura. Donc toutes ces banques qui étaient vraiment impliquées avec Archegos se sont juste fait laminer. Alors pour le Crédit Suisse, c'est pas une super nouvelle, évidemment. En plus, ils ont déjà l'affaire Greens Hill qui leur coûte de l'argent de l'autre côté. Donc c'est vraiment un sale début d'année, on va dire, de trimestre pour le Crédit Suisse qui ont été obligés de prévenir que ça va être compliqué et que ça allait leur coûter un maximum de pognon. Donc voilà, c'était un petit peu... On pourrait discuter des heures sur le sujet des CFDs, mais encore une fois, c'est comme d'habitude, hein, quand on prend, c'est comme quand vous avez les yeux plus gros que le ventre, ben, à un moment donné, il y a des choses qui coûtent, qui font mal, et qu'il faut simplement accepter que ce soit comme ça que ça fonctionne. Simplement, on n'a pas vraiment appris du passé, parce que c'est déjà arrivé dans le passé qu'on prenne des positions qui soient monstrueuses en produits dérivés, et qu'on se rende compte qu'une fois qu'on est tellement gros, eh ben, il n'y a plus personne qui peut nous aider à démonter nos positions quand on veut sortir, ça s'appelait LTCM il y a 25 ans, mais ça on a largement oublié puisqu'on a déjà oublié ce qui s'est passé la semaine dernière. Mais toujours est-il que ce qui est important de retenir dans cette histoire comme leçon, c'est que finalement un produit dérivé c'est rien de mauvais, c'est pas quelque chose de dangereux, c'est simplement quelque chose qui est beaucoup plus facilement maîtrisable quand on parle de taille normale. Mais quand on commence à rentrer dans des tailles dantesques, gigantesques et exceptionnellement grandes, eh bien le risque il est là et ça commence et ça peut coûter très cher. Encore une fois, le Crédit Suisse l'aura appris à ses dépens, mais bon, c'est pas la première fois non plus. Bon, c'est pas les seuls non plus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même très très mal de ce côté-là sur la thématique des CFDs. Maintenant, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir est-ce que réellement tout est fini? Est-ce que réellement il n'y a pas d'autres fonds qui seraient exposés dans cette même logique? Et est-ce que ces fonds ne sont pas en train de se dire « Ouais, alors on va peut-être quand même juste réduire un tout petit peu la voilure parce qu'on voit que la liquidité aujourd'hui est incapable d'absorber des gros trucs comme on a vu l'autre jour. » Donc il peut y avoir encore un peu de pression. C'est en tout cas la crainte qu'on a pour l'instant. Pour le reste, ça a l'air de relativement bien se passer. Les marchés asiatiques sont relativement sereins ce matin. Le bruit qui court dans le marché, c'est que tout est terminé. Mais on ne sait pas tout. Effectivement, ce fonds-là n'a pas communiqué, ne communique pas. Donc on ne sait pas toujours ce qu'il y a encore qui peut nous pendre au nez, qui est caché au fond de la grange. Donc méfiance un tout petit peu de ce côté-là. L'idée du jour aujourd'hui, c'est assez une idée technique. Vous regarderez le chart de NIO, le constructeur de voitures électriques chinois. Hier, il y a un analyste qui a downgradé Tesla aux États-Unis en disant Tesla ne vaut plus ça, simplement parce que aujourd'hui la concurrence arrive en Europe. Mais la concurrence est aussi en Chine. Et NIO a tellement corrigé ces derniers temps que je me dis que là, elle est revenue pile poil sur un niveau, elle avait déjà rebondi, qui correspond à un joli support. Et je me dis, pourquoi pas essayer de jouer un rebond sur NIO avec un stop loss relativement proche en cas de problème. Je terminerai encore ce podcast avec la question du jour. Quelqu'un me demande quel est mon avis sur le fait de shorter le marché lorsqu'un titre est en phase de baisse ou un indice est en phase de baisse. Est-ce que c'est une pratique que je recommande? Le faites-vous personnellement? Alors écoutez, pour faire simple, shorter, c'est comme acheter un titre qui monte, mais simplement vous le jouez dans l'autre sens. Donc si vous êtes à l'aise avec un marché qui baisse, oui, vous pouvez le faire. Perso, je le fais pas parce que je suis très mauvais à la baisse et que fondamentalement, je suis un bull d'origine et que chaque fois que j'ai essayé de jouer la baisse, je me suis fait brûler les doigts et je ne sais pas faire. Mais globalement, oui, c'est comme un trend descendant. Mais vous suffit de suivre le trend, mais dans l'autre sens. Après, il faut bien regarder sur quel type de plateforme vous traitez, parce que toutes les plateformes ne vous permettent pas de shorter, en tout cas pas des actions directes. Après, vous pourrez le faire probablement via les CFDs, comme on en a parlé au début de ce podcast. Mais oui, je pense qu'on peut le faire comme pour la hausse. Simplement, il faut faire très attention, parce que statistiquement, le marché monte plus que ce qui baisse. Donc vous êtes quand même, vous mettez déjà à dos 80 à 90% de la tendance du marché. Donc il faut faire très très attention par rapport à ça. À mon avis, ne pas le faire en marge justement parce que ça peut aller encore plus vite dans l'autre sens. Et puis c'est un outil qui peut être utilisé clairement. Il y a d'autres moyens de le faire via des mini futures, via des puts par exemple pour jouer la baisse d'un marché ou d'un indice. Mais je dois dire que le recommander, c'est pas une question de le recommander. La question, c'est quelle est la capacité de la personne à supporter ce genre de situation. D'expérience, le plus dur dans ce genre de choses, c'est que perdre de l'argent en étant long dans un marché qui baisse, c'est normal. Perdre de l'argent en étant short dans un marché qui monte, c'est juste insupportable. D'expérience, donc faites juste gaffe à ça. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain matin au même endroit et à la même heure.